France Inter. La Terre au carré.
Les bonnes nouvelles du vendredi et un tour donc des curiosités de la planète, Camille Cronier.
Et est-ce que vous êtes prêt à avoir une chanson toute la journée dans la tête?
Ah oui,
c'est
allez.
Parti.
On déambule, on fait des bulles sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan, ne me remerciez pas, pour vous parler du projet absolument brillant de plusieurs scientifiques. Créer une bibliothèque audio là qui regroupe tous les sons sous-marins qui existent, parce qu'il s'en passe des choses. Alors ça, par exemple, c'est un poisson grand tambour, mais il y a aussi la petite baleine de mink ou le son des langoustes. Tiens, est-ce que vous avez déjà entendu le son des langoustes sous l'eau? Voilà ce que ça donne.
Pas mal.
Allez, un dernier toujours chez les crustacés. Ça, c'est une menthe de mer, c'est une sorte de grosse crevette qui signale un intrus. Je me suis un petit peu amusée à piocher dans les différentes banques de sons qui existent déjà et que le projet donc veut regrouper pour à terme mieux inventorier, comprendre les dialectes géographiques, parce que oui, ça existe. Voir aussi par exemple comment les chants des baleines évoluent. Utiliser également l'intelligence artificielle pour identifier certains sons et bien sûr documenter au maximum avant que ce fantastique paysage sonore ne disparaisse à cause des altérations humaines. Sur les 250 000 espèces marines connues, pour l'instant, on estime que 126 espèces de mammifères, 100 d'invertébrés et 1000 de poissons produisent des sons. En voilà un autre, mais qu'on aime un peu moins, je crois. Voilà, c'est le son du frelon asiatique au milieu des abeilles. Terreur des ruches, ce frelon, entre autres. Vous savez que Vespa velutina est une espèce invasive et pas facile de lutter contre. Mais on a peut-être enfin une solution, un piège sexuel que le spécialiste de la bestiole, Éric Darrouzet, chercheur CNRS à l'Université de Tours, a mis au point avec des collègues chinois. Ils ont identifié la composition de la phéromone sexuelle produite par les femelles qui attire les mâles.
Par exemple, sur le campus universitaire de Tours, dans la forêt ou à côté des bâtiments, il n'y a pas de frelons autour de nous. On dépose notre mélange de la phéromone sexuelle sur un bout de papier posé au sol, et en quelques minutes, on a des mâles qui arrivent. Donc on a montré que la gyne, c'est-à-dire la reproductrice, la future reine, va attirer les mâles pour l'accouplement via la phéromone sexuelle. Et l'idée qu'on a, nous, maintenant, c'est de piéger ces mâles en quantité pour, limiter les accouplements. Une future reine va avoir plus de difficultés à s'accoupler. Et si elle s'accouple pas, la passe-spermatozoïde, elle pourra pas créer de colonie l'année suivante. Et le deuxième effet, en diminuant la population de mâles dans l'environnement, si la femelle n'a pas trop le choix, finalement, elle trouve un mâle et finalement, elle va s'en contenter. Et si ce mâle, c'est un de ses frères, par exemple, on va stimuler le phénomène de consanguinité qu'on a mis en évidence il y a 6 ans maintenant. Et si cette femelle s'accouple avec un frère, elle va produire une descendance, donc elle va créer une colonie, mais sa descendance sera stérile.
Voilà, alors maintenant il faut tester les pièges et ensuite pouvoir les installer partout sur le terrain, donc il faudra des moyens, ce qui fait que c'est pas encore gagné. Aux États-Unis, les grands moyens cette fois, à la rescousse du loup que l'administration Trump avait autorisé à chasser il y a un an, et ça avait été un carnage, 200 loups par exemple tués en 3 jours dans le Wisconsin. L'administration Biden vient d'interdire cette chasse, le loup gris est désormais protégé dans la majorité des États. Chez nous, en Ariège, c'est aux arbres que certains s'en étaient pris l'an dernier, des centaines de chênes d'épicéas volés à leur propriétaire dans le village de Perles et Castellet, comme Hélène Rameil.
35 chênes centenaires, c'était un havre de paix et un petit paradis. Et il n'y a plus rien, c'est un massacre à la tronçonneuse.
Alors le patron de l'entreprise espagnole derrière ce massacre, ils étaient venus, les bûcherons, ils avaient tout rasé, était poursuivi pour vol avec dégradation et destruction. Il a été mardi, condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis et 2 amendes, 40 000 euros à titre personnel et 100 000 euros pour son entreprise. Donc je me suis dit, bonne nouvelle pour les plaignants, dont Hélène Rameil. Trop soulagée, non?
Bon, on est un petit peu abasourdi de ce qui nous tombe sur la tête.
Alors, c'est raté. En fait, la condamnation n'est pas du tout suffisante, selon eux.
On s'attendait à ce qu'il soit condamné plus sévèrement, qu'il soit surtout interdit de revenir en France pour continuer ces massacres. Et puis, on voulait être indemnisé à hauteur de notre préjudice.
Parce qu'ils n'ont absolument rien touché depuis un an. Donc les parcelles sont toujours complètement détruites. Et en attendant que l'affaire se résolve, ils ne peuvent rien en faire. Le bûcheron a fait appel en plus, mais eux ne comptent pas se laisser faire.
Ah non, on ne va pas baisser les bras, nous on ira jusqu'au bout.
En espérant donc une vraie bonne nouvelle la prochaine fois. De l'espoir encore avec le début d'un Tour de France un peu spécial ce dimanche, le 20 février. 3000 km à pied, ça use les souliers, je le disais, mais c'est pour essayer de faire bouger les choses. Des jeunes veulent se faire entendre en pleine campagne présidentielle puis législative. Ils lancent donc le Relais Jeunes, opération apartisane, je le précise. Et Lou Garcia, 25 ans, sera de la partie.
Si on marche pendant 3 mois et demi, c'est parce qu'on marche pour notre avenir. L'idée, c'est de dire que cette jeunesse-là, qui a envie de défendre des valeurs autour de l'environnement, la justice sociale et la démocratie, on a une voix et on veut et on va être entendu si on se mobilise et qu'on fait front ensemble. Il y a un ras-le-bol, c'est complètement aberrant qu'avec les enjeux climatiques auxquels on fait face, auxquels l'humanité fait face, il y a un traitement aussi moindre de ces enjeux-là à l'occasion des élections présidentielles qui sont quand même des élections déterminantes en France. Donc on invite tous les jeunes à venir nous rejoindre, et les moins jeunes d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde.
Départ dimanche donc de Paris, direction Rouen pour la première étape, puis après il y aura des étapes tous les 3 jours dans 20 villes partout en France. Ils vont vraiment faire le tour avec des ateliers, des rencontres. Retour prévu le 10 juin, donc si vous voulez vous joindre au convoi pédestre, les informations sont sur le site Relais Jeunes, au pluriel, relaisjeunes.fr. Je précise que les vélos sont autorisés aussi. Voilà.
C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Le journal de Camille Cronier du vendredi.
France Inter.